4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, l'armée israélienne fait partie du paysage au sud de la Syrie. Les chars sont présents depuis la chute du gouvernement de Bachar al-Assad. Conséquence, la population syrienne s'inquiète. On y revient dès le début de ce journal. Première comparution de l'ex-président philippin devant la Cour pénale internationale. Rodrigo Duterte est suspecté de crimes contre l'humanité dans le cadre de sa guerre contre la drogue. Dans ce journal également, un revers judiciaire pour Donald Trump. Deux juges ont annulé les licenciements d'employés d'agences fédérales. Total Energy obtient près de 5 milliards de dollars pour s'installer au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado. Et puis le 15 de France affrontera l'Écosse samedi soir. Dernier match du tournoi des 6 nations. S'il gagne, le sacre est quasiment assuré. Des incursions de l'armée israélienne dans le sud de la Syrie. C'est désormais régulier depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. Pendant ce temps, les nouvelles autorités de Damas sont absentes de la zone et cela inquiète les habitants. Correspondance à Damas de Mohamed Erami.
Des traces fraîches de chars israéliens marquent la terre sèche du sud syrien, dessinant une route entre Israël et la Syrie. Depuis la chute de Bachar al-Assad, l'armée israélienne fait partie du paysage, surtout dans la province de Qunitra. Elle ne vient pas les mains vides, aide humanitaire, échange direct avec les habitants. Abou Mohamed, épicier à Souaïssa, voit tout depuis sa boutique en bord de route.
Les tanks, les véhicules blindés et les petites voitures israéliennes traversent quotidiennement ces zones dans le but d'imposer un fait accompli. Ils sont allés dans les maisons des habitants et leur ont proposé de l'aide alimentaire. Certains ont accepté leur offre, mais la majorité l'ont refusée.
À mesure qu'on s'approche de la frontière, une voix nous arrête. Mohan El Ahmed, un habitant du sud, met en garde. Il craint qu'Israël ne fasse plus que passer, que le sud ne devienne une zone occupée. Ici, dit-il, les soldats peuvent surgir à tout moment.
En tant qu'habitants, nous demandons au nouveau gouvernement syrien d'intervenir immédiatement et de nous fournir l'ensemble des services publics et de faire face aux incursions israéliennes le plus rapidement possible afin que le destin de Qunitra ne soit pas le même que celui du plateau du Golan.
Le sud syrien regroupe trois provinces, Qunitra, Deraa et Souaïda. Environ 1 million de Syriens y vivent dans l'incertitude de ce que leur réserve l'avenir. Mohamed Erami, Qunitra, RFI.
En Cisjordanie occupée, l'autorité palestinienne annonce un mort après une offensive israélienne. Cela s'est passé dans un village proche de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. L'armée israélienne avait confirmé avoir ouvert le feu sur des lanceurs de pierres. L'opération de l'État hébreu, lancée le 21 janvier, a fait au moins 74 morts côté palestinien. Des attaques généralisées et systématiques contre les Philippins. C'est ce que reproche la Cour pénale internationale à Rodrigo Duterte. L'ex-président philippin a comparu devant les juges en visioconférence ce vendredi. Il est poursuivi pour des crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre 2011 et 2016. Et ce, dans le cadre de sa guerre contre la drogue qui aurait fait plusieurs dizaines de milliers de morts selon des ONG. Correspondance de Stéphanie Maupa à La Haye.
Plus de 24 heures de voyage et un bon décalage horaire, c'est assez pour que l'ex-président philippin se soit senti trop fatigué pour un déplacement jusqu'à la cour. Vêtu d'un costume et d'une cravate, il a confirmé son identité par visioconférence depuis la prison. Pour le reste, la présidente de la Chambre, la juge Motok, ne lui a pas donné la parole, mais alors qu'elle récitait la liste des droits dont bénéficient les suspects, son avocat s'est exprimé. Salvador Medialdea a dénoncé la livraison de l'ancien président à La Haye. Pour nous, a-t-il dit, pour nous, avocats, cela s'appelle une rendition extrajudiciaire, pour ceux légalement moins informés, un simple kidnapping. Il a ensuite reproché à la cour de ne pas lui avoir fourni copie du mandat d'arrêt. L'avocat a vu son client moins d'une heure depuis son arrivée mercredi soir. Il avait été conduit à l'hôpital avant de rejoindre la prison. Devant la cour, les partisans de l'ancien président ont manifesté au cri de liberté. Un peu plus loin, des victimes du régime Duterte demandaient justice. Stéphanie Mopala et RFI.
Et c'est la première fois qu'un ex-chef d'État asiatique est inculpé par la Cour pénale internationale. Après 3 ans de combat, la perspective d'une trêve en Ukraine fait son chemin. Vladimir Poutine a rencontré l'émissaire des États-Unis pour en discuter, mais le chef d'État russe évoque des nuances, des conditions qui ne plaisent pas à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Vladimir Poutine fait désormais tout ce qu'il peut pour saboter la diplomatie en posant des conditions extrêmement difficiles et inacceptables. Ce sont ces mots. Sur le front, Donald Trump demande au chef d'État russe d'épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens dans la région de Koursk. Alors que la guerre en Ukraine est au cœur de la politique américaine, Donald Trump vient de subir un revers judiciaire. Ce jeudi, deux juges ont annulé les licenciements d'employés d'agences fédérales décidés par le président ces dernières semaines. Les magistrats se sont montrés très sévères envers le milliardaire. Les précisions de Marine de la Moissonnière.
Officiellement, ces fonctionnaires ont été renvoyés à cause de leurs mauvais résultats. Mensonge, estiment les deux juges, qui dénoncent une manœuvre de la part de l'administration Trump pour déguiser des licenciements collectifs destinés à réduire le poids de l'État tout en s'affranchissant des obligations légales. Ce sont donc des dizaines de milliers de fonctionnaires qui vont retrouver leur poste ou recevoir une indemnité de licenciement des employés qui étaient en période d'essai. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tout fonctionnaire qui change de poste, y compris pris au sein de la même administration, est considéré comme étant en période d'essai pendant 1 ou 2 ans. Ces deux décisions ne signifient pas pour autant la fin des licenciements, elles offrent juste un répit aux fonctionnaires, car les deux juges ne se sont pas prononcés sur le fond du dossier. Et puis les agences fédérales peuvent tout à fait décider de réduire leurs effectifs, à condition, comme l'a rappelé la justice américaine, de respecter les règles. La Maison-Blanche, elle, a promis de se battre contre ces décisions qu'elle juge absurdes et anticonstitutionnelles.
Revers judiciaire, mais victoire des Républicains. Les États-Unis évitent un shutdown. Le budget provisoire a été adopté in extremis grâce aux voix des sénateurs démocrates. Un revirement de l'opposition car ils se sont toujours opposés au texte. Mais le risque d'une paralysie budgétaire les a fait changer d'avis. Ce budget comprend de nouvelles réductions des dépenses de l'État fédéral. Direction le Mozambique, un financement clé pour le projet gazier de Total Energy. La banque d'import-export américaine a approuvé un prêt de 5 milliards de dollars pour les installations du groupe français dans la province de Cabo Delgado. Méga projet dont les travaux n'ont pas encore repris pour des raisons de sécurité dans cette région en proie aux attaques djihadistes. En tout cas, c'est une étape cruciale pour Total Energy et le Mozambique. Alexis Bédu.
La relance de ce financement était fondamentale pour Total Energy. Le projet de gaz naturel liquéfié mozambicain a été interrompu il y a 4 ans et le prêt, déjà approuvé à l'époque, devait repasser devant les différentes instances de la banque publique américaine US Exim. Ça n'avait pas pu se faire pendant le mandat de Joe Biden. L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche semble avoir accéléré le processus, avec notamment la nomination d'un nouveau conseil d'administration. Et si les Américains soutiennent ce méga projet gazier, c'est parce qu'ils y ont de nombreux intérêts, explique Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy au micro de Bloomberg.
Pourquoi US Exim nous soutient? Parce que la plupart des contrats ont été attribués à des entreprises américaines et à des entrepreneurs américains. Ce projet, c'est 16 000 emplois aux États-Unis. On a hérité du projet de la compagnie Anadarko et on a gardé tous les contrats américains.
Plus de 40% des contrats du projet ont été attribués à des entreprises américaines. Les travaux doivent reprendre, mais aucune date n'est avancé pour l'instant. Total Energy l'a redit en début d'année. La priorité est de rétablir la paix et la sécurité au Cabo Delgado.
Du sport avant de fermer ce journal, un dernier effort pour le 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Une semaine après leur belle victoire en Irlande, les Bleus reçoivent l'Écosse au Stade de France. Une victoire devrait garantir aux joueurs de Fabien Galthié leur premier sacre depuis 2022. Antoine Dupont forfait après sa nouvelle rupture des ligaments croisés. C'est Grégory Aldrit qui est nommé capitaine. Le troisième ligne de La Rochelle se dit impatient.
Il y a beaucoup d'excitation. Nous sommes tous concernés, on est tous motivés et on a tous hâte d'être à demain soir. On s'est prouvé à nous-mêmes sur les derniers matchs que voilà, on prenait beaucoup de plaisir sur le terrain. Avant de parler des victoires, de tout ce qu'on a pu faire, nous on s'est régalé sur le terrain et ça a été le mot d'ordre un peu de cette semaine, c'est de continuer comme ça. Pas oublier quand même le sale boulot parce que c'est grâce à ça qu'on gagne, mais continuer à prendre du plaisir entre nous et voilà, c'est jusqu'à maintenant en tout cas, ça a été une signation formidable pour nous.
Des propos recueillis par Babacar Diarra, grâce à qui vous pourrez suivre cette opposition ce samedi dans nos journaux à partir de 20h TU. Et puis du tennis, la sensation russe Mira Andreeva, 17 ans, a battu Iga Świątek en finale du tournoi d'Indian Wells. La Polonaise était pourtant tenante du titre. Mira Andreeva affrontera la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka ce dimanche après sa victoire contre Keys. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI, bientôt 4h10 à Paris, 3h10 en temps universel.